Bonsoir et bienvenue dans cette émission de Purée spéciale relaxation. Vous êtes des femmes, vous êtes ici en sécurité. Vous êtes protégées contre toutes les ondes négatives, les choses à faire et les choses à penser, dont le monde nous bombarde sans relâche depuis notre naissance. Nous sommes le dimanche 8 mars. Quelle heure est-il ? Il est l'heure de Purée. Bonsoir et bienvenue sur Radio Campus Paris 93.9. Vous écoutez Purée, l'émission de cuisine qui donne la patate. Nous sommes le 8 mars et en l'honneur de vous, nos mères, nos filles, nos sœurs saurores.
Le 8 mars, c'est la journée internationale des droits des femmes. C'est une célébration qui revient à chaque année dans une centaine de pays.
Tu es très loin de l'idée que se font les femmes de ce qui est sexuellement intéressant.
D'accord. Féministe, qu'est-ce qu'on entend par cela ?
Il y en a qui disent que les femmes, elles aiment les fleurs, alors que non, moi je pense qu'elles n'aiment pas les fleurs.
On enregistre une émission sur la cuisine. Il y a en fait peu de rapports, mais qu'importe. On accueille ce soir une deuxième Camille. Bonsoir.
Bonsoir.
Camille est une amie de Carla, notre réalisatrice géniale et la responsable qualité éditoriale de notre émission. Camille, notre invitée, est bébé réalisatrice et brune. C'est vrai ?
Tout à fait. Les deux.
Eh bien, pour commencer, selon notre nouvelle tradition, je te pose quelques petites questions pour introduire ton rapport à la cuisine, à l'alimentation, etc. etc. Et je commence par cette question-là. Est-ce que ton rapport à la cuisine, il a changé au fil de ta vie ? À la cuisine, au sens large, pas c'est strictement la pièce, mais faire à manger, manger, etc., etc. Et à quel moment, pourquoi, comment, un peu une manière de nous raconter ton parcours culinaire ?
Mais déjà, je pense que le rapport à la cuisine change en fonction de la pièce, de la cuisine, des éléments qui sont dedans. Notamment le four, toutes les choses comme ça que je n'ai pas toujours eues au cours de ma vie. Mais il est surtout lié, je dirais, à mon histoire d'amour, à la personne que j'ai rencontrée et qui a complètement, qui est pour le coup une personne extrêmement centrée sur la nourriture, sur le fait de bien manger, d'avoir des bonnes adresses et de savoir bien apprécier ce qu'on mange. Et donc, Young So, qui peut-être m'écoute ce soir, a vraiment, je dirais, totalement changé mon rapport à la nourriture dans ma vie, là où j'avais un rapport assez, sans intérêt particulier, sans sensibilité particulière, même si j'avais toujours la possibilité. Enfin, voilà, on peut tous sentir des choses, donc... C'est un chemin qui peut s'activer et moi, c'est cette rencontre dans ma vie et cette relation qui l'a vraiment activée. Quoi.
Et ça remonte à quand cette rencontre, ce changement ?
Ça va faire 5 ans bientôt.
Oh, bravo. Et qu'est-ce qui joue le plus ouais. qu'est-ce qui joue le plus un rôle dans le choix de ce que tu manges Ouais, donc du coup, plutôt dans ton rapport à la cuisine actuelle, tel qu'il a été transformé peut-être, entre des éléments comme le prix, le goût, des valeurs, le temps de préparation, etc. etc. Qu'est-ce qui sont les agents les plus forts dans tes choix ?
Alors, il y a évidemment le prix. Je n'ai pas un gros pouvoir d'achat, donc je pense que c'est le truc principal, ça, et le végétarisme. Là, vers septembre, ça fera 10 ans que je suis végétarienne. Merci.
Donc, émission applaudissements.
Et du coup, oui, c'est des choses qui ont le plus d'impact. Et aussi, le fait que, surtout quand je suis seul et que je ne suis pas en train de chercher à ce que quelqu'un avec moi mange bien, ou, voilà, j'ai tendance à négliger ça aussi. Donc un côté assez pratique, quand je me laisse gérer moi-même mes repas, quand je suis seul, tout ça. Je pense que c'est les 3 gros facteurs quand même. Ouais. Pratique, végétarisme et prix.
Money,
ouais.
Argent. Et est-ce que tu aimes suivre des recettes ?
Non. Et c'est un problème parce que c'est un très bon moyen de progresser, d'apprendre en cuisine. Mais c'est quelque chose... c'est pas un problème au quotidien. Mais c'est vrai que régulièrement, s'intéresser à des recettes, apprendre des choses, En suivant des recettes, c'est très bon, mais je le fais très, très peu. Et j'ai toujours tendance à vouloir voilà, diverger, prendre la tangente sur ce qui est... Ou alors m'arranger un peu. Ne serait-ce même qu'avec les dosages, je n'ai pas toujours la patience de bien doser. Et ça, pour le coup, c'est un truc qui m'oppose avec, avec ma copine, qui est une pro absolue du dosage. Donc je compte sur elle.
Pour doser.
Pour, entre autres.
Merci ouais. à elle de doser.
Ouais.
Et pour conclure cette petite introduction sur toi, ton rapport à la cuisine, qu'est-ce qui fait que tu trouves un plat beau ?
Je pense que c'est beaucoup le côté un peu complet, nourrissant, quand je sais que je vais avoir voilà, un peu de légumes, des protéines, des choses qui vont me caler un peu, comme des féculents, du pain. Voilà, quand je sens vraiment que je vais avoir un repas avec un peu de tout, un peu complet et très sain, c'est ça qui me fait le plus plaisir, ouais.
Est-ce que ça fait aussi des assiettes multicolores, souvent ?
Ouais, en plus. Mmh. Mais c'est tout l'intérêt. Multicolores, enfin, il y a plein de goûts dans un seul et même plat, donc moi, c'est
vraiment ce que
je recherche.
Est-ce que tu fais genre des bowls qui sont à la mode avec un petit peu de machin ?
On peut dire bol, hein.
Mais non !
Pardon.
Avec genre un peu d'avocat, un peu de maïs, un peu de trucs.
Mais je fais pas. Je pense pas que ça se rapproche des bols, mais oui, je fais des compotés ou des choses comme ça.
Plus complète, un peu de tout
genre
dans
un
le
plat
même,
unique.
Ouais, soit comme ça, soit je suis vraiment en plus, bah, pour le coup, quelque chose que j'ai appris du côté de la cuisine coréenne, puisque ma copine est née, a grandi en Corée, où il y a le riz. Et tous les side dish, tous les
ouais,
trucs à
les
côté.
Appendices.
Donc voilà.
Satellites.
Soit j'ai plein de petits bols, plein d'assiettes. Soit c'est tout mélangé. Mais ouais, il faut qu'il y ait de la variété, quoi.
Vous écoutez Purée, l'émission de cuisine qui donne la patate, sur Radio Campus Paris 93.9.
Et on vient d'écouter la musique Supermarket Woman, femme supermarché, un des titres du premier EP des Royal Ratbags, un groupe de New Wave Punk. Ne me demandez pas ce que ça veut dire, mais c'était écrit dans la description YouTube de la chanson. Et d'après ces artistes australiennes, donc c'est un titre très récent là, qui date de début 2026 ou fin 2025, et d'après ces artistes, ce son célèbre, là aussi je vous cite la description YouTube, la joie simple d'être fabuleuse dans la lumière fluorescente de votre épicerie locale. Est-ce qu'on ne l'a pas tout expérimenté ? Je ne sais pas. Et en parlant de cette joie simple, nous sommes aujourd'hui toujours avec Camille qui se décrit elle-même comme une femme de supermarché. Alors si on parlait un peu de ton rapport au supermarché en commençant par cette triple question, quel supermarché, quelle fréquence, quel style de course ?
Oh mon Dieu, mais c'est tellement circonstanciel. Ça dépend où on est. Donc, autour de là où j'habite, il y a à la fois un Intermarché que j'aime très peu, mais qui est toujours là, sur qui je peux compter. Et surtout, étant donné que je suis au niveau de Ivry et du 13e arrondissement, il y a beaucoup de grands supermarchés d'importation, notamment Tang Frères, qui est mon préféré. Et voilà, donc j'aime beaucoup... Je dirais la politique, contrairement à celle d'Intermarché. Sur quels produits est-ce qu'ils vont faire leur marge, comment ils vont penser un peu à la fois l'agencement, la mise en avant des produits. Je les trouve beaucoup plus honnêtes.
Est-ce qu'ils font leur marge sur quoi par rapport à Intermarché, par exemple ? Je ne me rends pas compte, moi.
Moins sur des produits essentiels. Par exemple, les légumes chez Intermarché, il y a récente déclaration, je crois que c'est le PDG d'Intermarché, en tout cas la tête d'Intermarché qui assumait de faire des marges sur les légumes, les choses comme ça qui sont fondamentales. Et là où justement, pour des prix comparables et même moins chers, il y a souvent des légumes de meilleure qualité, je trouve, dans le grand Tang Frères, avenue d'Ivry à Paris, mais comme dans plein d'autres supermarchés. Mais voilà, du coup je vois bien sur lesquels je peux compter pour mieux manger et à prix raisonnable, donc c'est vraiment ce qu'oriente mes choix. Et après je fais un peu avec la complémentarité entre les supermarchés, mais c'est vrai que le côté pratique et le peu d'interaction sociale, moi, me convient vraiment quand même par rapport au marché où il y a souvent des bons produits, mais c'est un exercice. Moi, j'ai encore du mal à m'y frotter.
Un exercice de style de parler à tous les gens qu'on croise au marché.
Ouais, puis je suis du genre à me faire marcher dessus. Enfin, genre, je me retrouve avec des kilos de cerises, des choses comme ça que je n'ai pas demandé. C'est compliqué.
Et à quelle fréquence tu dirais que tu fréquentes les supermarchés?
Oh là, c'est terrible. Au moins une ou deux fois par semaine. Je suis du genre à faire vraiment pas beaucoup...
Des petites courses.
Conséquentes. Mais ça, c'est hérité. Moi, j'ai grandi à la campagne, donc dans un petit village. Et voilà, on faisait les grosses courses de la semaine. Voilà, classe moyenne typique et tout. Hein. Donc moi, je suis encore là-dedans pour le moment, bien que je vive en région parisienne désormais. Mais on verra si ça change.
Oui. Et toi, l'autre Camille, à quelle fréquence tu fréquentes
les
supermarchés ?
Des grosses courses toutes les deux semaines avec Radou.
Et entre les deux, vous n'allez pas au supermarché ?
Bah si, de fait, mais on essaye d'y aller le moins possible. Mais parfois, à la fin des deux semaines, on n'a un peu plus rien à manger. Du coup, on va acheter un truc et tout. Mais on essaye de faire des grosses courses d'un coup.
Moi, je pense que c'est très rare que je passe deux jours sans aller au supermarché. Très rare.
Tout disparaît trop vite.
Mais parfois, je vais au supermarché et j'achète rien. Mais j'ai un vrai...
Lèche vitrine.
Ouais, franchement, un peu. Ça m'arrive. Le supermarché le plus proche de chez moi, c'est un Monoprix, c'est donc très cher. Ça m'arrive quand même assez régulièrement d'y acheter des choses, mais j'y vais aussi très souvent pour juste. Il est tout petit. Donc je monte à l'étage, il y a des vêtements et des assiettes et tout. Je regarde un peu tout, puis ensuite je redescends, je regarde chaque rayon alimentaire et je ressors et je rentre chez moi. Et ça m'a fait un petit quelque chose.
Un frisson.
Ouais. Et ce supermarché qui nous rassemble toutes. Ici, au moins, mais je pense que c'est quand même peut-être un des lieux communs de beaucoup de nos existences, notamment si on exclut peut-être les ultra-riches qui ne mettent pas les pieds au supermarché. Encore que, moi, je me dis peut-être que si j'étais ultra-riche, ou plutôt quand je le serais, j'irais au supermarché tous les jours. Je ne sais pas, je n'en suis pas persuadée. En tout cas, le supermarché, c'est aussi un motif fictionnel assez riche et sans doute assez récurrent, donc peut-être un double lieu commun. Purée, c'est Camille!
J'adore, et je dis bien j'adore, les livres de cuisine. Le sens de recettes de cuisine comme préparation culinaire, en fait, il n'arrive que 200 ans plus tard. Orange sanguine ou consanguine? Est-ce que vous savez différencier clémentine et mandarine?
À l'occasion des supermarchés, je vais vous lire un extrait de Nul si découvert de Valérian Guillaume qui est sorti aux éditions de l'Olivier en 2020. Et c'est un passage où c'est la matinée mexicaine au Carrefour. Deux clients ont été sélectionnés pour participer au jeu du caddie contre la montre. Introduction. C'est Léontine qui a couru dans l'allée la première et puis Maxime ensuite. Après le top départ, c'était trop marrant parce que Léontine, c'est une vieille dame qui se remue bizarrement et qui courait pas très vite. Mais bon, vu qu'elle a été tirée la première, elle avait 60 secondes pour prendre tout ce qui lui faisait le plus plaisir parmi les produits partenaires de l'événement. Mais elle a perdu au moins 5 secondes dès le début en manquant le top départ. Et puis, bien qu'ambitieuse, son état physique ne lui permettait clairement pas de faire une performance optimale. Par contre, faut dire qu'elle n'a pas du tout démérité car elle a tout de même réussi à remplir le caddie de moitié et ce en produits divers avec une certaine malice. Léontine a sauté en premier lieu sur la gamme Fructis, du soin fortifiant à l'huile d'argan, sans oublier l'après-shampoing au concombre. La coquette n'a pas perdu son temps, elle a aussi raflé toute la gamme Secret du Monde et liquide vaisselle Mire, voyageant au Japon avec la formule cerisier impériale, au Vietnam avec la mangue, à Cuba avec la menthe au citron vert, et en Andalousie avec les arômes figues et grenades. Elle n'a pas oublié d'honorer les partenaires de l'opération en prenant un maximum de produits Pepito, les crocs sables et poquitos et les mini rolos. Elle a aussi pris un maxi pack de sopalin, plusieurs mini babybel par lot de 12, du chocolat Côte d'Or au lait et aux noisettes entières, et sur la dernière ligne droite, elle s'est vraiment surpassée en portant deux gros paquets de Skip Active Clean. J'étais bluffée de la voir aussi combative. En revanche, je dois admettre que je restais un peu déçue par les produits proposés pour l'opération. Car j'aurais souhaité qu'ils soient plus thématisés par rapport au Mexique. Mais bon, c'était déjà super. Et en plus, c'était trop mignon parce que quand elle est arrivée au bout de ses 60 secondes avec sa lessive, elle était toute transpirante. Et quand on l'a applaudie et que Muriel lui a dit bravo au micro devant tout le monde, elle avait l'air hyper émue. Et ça se voyait qu'elle avait les yeux humides. On lui a demandé alors contente et elle a dit oh oui au micro. Et elle a dit merci beaucoup avec une voix très douce. Toute l'équipe du magasin l'a embrassée et puis sur un nouveau morceau de musique mexicaine, le second candidat Maxime s'est mis en piste. Ayant été pioché en second, il n'avait quant à lui que 30 secondes pour montrer ce qu'il avait dans le ventre. Mais franchement, j'avais pas envie de m'étaler sur ce mec parce que même s'il était beaucoup plus costaud physiquement, sa prise d'espace, son originalité sur le parcours et son inventivité étaient vraiment zéro. Il n'y avait rien de spectaculaire, rien de généreux, j'étais dégoûtée. Bon, déjà, ça se voyait qu'il n'était pas là pour l'amour du jeu, mais plutôt en mode mauvais joueur. Il a fait deux faux départs qui ont forcé Muriel, qui arbitrait, à recompter deux fois derrière lui, ce que je trouve déjà franchement minable et décevant. Moi, je dis qu'on aurait dû décompter ce temps de son chrono. Bref. Et ensuite, les produits qu'il choisissait ne montraient aucune complexité dans la composition de son caddie. Il a pris rien que des pépitos et de la desperados en masse. En plus, il avait honte de courir, alors il était tout rouge et il trottinait à peine. J'avais envie d'aller lui dire qu'il n'imaginait pas combien de personnes auraient aimé être à sa place. Des fois, les gens n'ont aucun sens de l'invention et de l'originalité. Ça me rend vraiment triste. Une fois, c'est pas pour dire, mais j'ai suivi mon voisin toute une journée et j'ai trouvé sa conception de la vie et des choses franchement minable. Voilà, fin de l'extrait.
C'est génial.
N'est-ce pas?
Ça me fait penser au... Enfin, j'imagine, je sais pas que c'est ça l'inspiration, je sais pas, mais ça me fait penser aux influenceurs là, qui payent des courses, vous voyez ou pas, sur TikTok, genre, qui filment, qui vont voir des gens et ils leur disent « Ok, maintenant, t'as 30 secondes, tu prends... Bah, » La même chose un peu que là, ce qu'il a raconté, mais c'est pas organisé par le supermarché, c'est des influenceurs qui font ça. « Bah, maintenant, t'as 30 secondes et tu prends tout ce que tu veux, et au bout des 30 secondes, je te paye tes courses. » Et qui, du coup, par ce biais-là, donnent l'impression qu'ils sont genre trop généreux. Et alors que, bon, enfin, juste, c'est des gens qui sont pétés de thunes pour qui ça change rien. Et du coup, tu vois genre des mères de famille qui sont là, qui se traînent trois gosses à côté d'elles parce que c'est ça le plus spectaculaire dans la vidéo. Et qui, du coup, courent partout, effectivement, finissent exactement comme dans l'extrait là. Et genre, elles sont trop mignonnes et toutes douces et trop transpirantes. Et elles le remercient tellement. Et elles pleurent tellement, elles sont émues qu'on leur paye leurs courses. Et ce côté un peu.
Il y a tout un truc sur la générosité dans les supermarchés, je trouve. Et notamment, avant les fêtes de fin d'année, là, moi, j'étais sur TikTok et je voyais plein de vidéos de Angel Trees. Je sais pas si vous voyez ce que c'est.
Non.
En fait, c'est genre des. J'ai l'impression aux États-Unis, il y a des. Comme des arbres de Noël à l'entrée avec des petits tags, des petites étiquettes sur lesquelles est marqué des informations sur un enfant qui est en situation difficile et qui a peut-être pas forcément de quoi acheter des cadeaux de Noël. Enfin, genre, ses parents ont pas de quoi lui offrir des cadeaux de Noël. Et du coup, c'est marqué genre une liste de souhaits en mode quelle taille il fait, qu'est-ce qu'il veut, etc. Et les gens peuvent prendre un petit tag Angel Tree. Enfin, un angel, je sais pas comment ça s'appelle, avant leur entrée dans le magasin. Et du coup, ils font les courses pour cet enfant. Et après, bref. Et il y avait vraiment genre, plein d'influenceurs qui faisaient beaucoup de beurre là-dessus, sur genre, filmer toutes leurs trucs
Angel Tree. Toutes les courses qu'ils font pour des pauvres enfants. Ouais.
C'est ça.
Ouais.
Mais après, c'est un peu un cercle vicieux, parce qu'après, ils font de la thune, mais du coup, la thune, ils la réinvestissent soi-disant. Enfin, bref.
Ouais,
c'est super bizarre. Surtout que je trouve que l'extrait que tu as lu rappelle, c'est aussi le côté très intime, très personnel des courses qu'on choisit, tout ça, qui en même temps est influencé par les facteurs extérieurs de la disposition, etc. Mais c'est quelque chose de très. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui n'aiment pas forcément être interrompus au supermarché ou croiser des gens qu'ils connaissent au supermarché. Mmh. Et c'est bizarre que ça devienne un espace de performativité, d'une générosité ou de vouloir se connecter avec les classes moyennes ou précaires parce que c'est là qu'on les trouve. Je sais pas, on peut les trouver ailleurs, on peut les laisser tranquilles faire leurs courses, je sais pas.
Tout à fait.
Je vous lis un autre extrait parce que ça va dans le sens de ce que tu dis là. Presque tout le monde avait le sourire et avait l'air de passer une délicieuse matinée. Le directeur du magasin Carrefour était là en personne et il a pris le micro et a parlé en articulant hyper bien chaque mot et en regardant chacun dans le plus profond des yeux. C'est rare les gens qui regardent comme ça. Il a parlé longuement de l'importance pour la famille Carrefour de s'ouvrir à d'autres pays, à d'autres cultures. Il a dit que son ambition ne se limitait pas au fonctionnement d'un magasin dont les chiffres font chaque année leur preuve, mais de faire de cette marque un lieu, une communauté où les gens se rencontrent, apprennent, découvrent, se nourrissent des uns des autres, et la façon qu'il avait de remuer ses doigts et de faire des rotations avec ses poignets. Bref, etc. Mais ce truc de genre le supermarché comme communauté.
Ouais, ouais. Alors que précisément ce que tu disais tout à l'heure, Camille, c'était un peu l'inverse du supermarché, comme un endroit où on peut y aller parce qu'on n'a pas d'interaction sociale ou presque pas. Enfin, ouais. Voilà, un endroit où effectivement on est avec soi-même. Moi, je trouve que j'aime beaucoup accompagner des amis au supermarché parce qu'effectivement c'est assez intime et j'adore voir ce que les gens achètent. Enfin, voilà. Mais je ne sais pas si pour autant je dirais vraiment que c'est un espace de. Non, je sais que je ne dirais pas pour autant que c'est un espace de communauté, ouais. Et en tout cas, pas pour la famille Carrefour. Je profite juste de cette petite minute d'antenne pour dire que Carrefour, ils ont distribué des repas aux soldats israéliens et que donc ils font partie d'une liste potentiellement boycottable. Voilà. Pour continuer sur cette idée du supermarché comme un motif fictionnel, tu nous as parlé Camille l'autre, ou Camille la vraie, je ne sais pas.
On est brunes toutes les deux.
Ouais, Camille la brune, il n'y a que des brunes, c'est assez terrible. Voilà, de nous parler du film Supermarket Woman, qui s'appelle comme la chanson, vous l'aurez remarqué, par hasard.
Tout à fait. C'est un film auquel j'ai très vite pensé sur ce sujet du supermarché parce que il m'a vraiment marqué. C'est un réalisateur de comédie japonaise qui l'a réalisé, qui s'appelle Juzo Itami, et qui est connu pour avoir fait notamment un film Tampopo autour des ramen, qui est un autre grand film autour de la nourriture, et qui souvent amène une dimension un peu épique ou romanesque sur des sujets sans prétention. Il a fait aussi une série sur, par exemple, une inspectrice des impôts, qui est superbe. Et là, ce film-là, sur le supermarché, ça nous raconte l'histoire de deux amis de longue date, Goro et Hanako, qui ne se sont pas revus depuis les études, tout ça. Ils ont fait leur vie et tous deux sont veufs et veuves. Et il se rencontre par hasard dans un supermarché. Lui est gérant de supermarché. Il a un supermarché simple. Je crois qu'il a hérité de sa famille. Elle est de retour un peu dans la ville. On ne sait pas exactement ce qu'elle faisait. Peut-être qu'elle était femme au foyer, tout simplement. Ménagère. Mais justement, tout le film va renverser cette manière de penser le supermarché, qui est un peu la manière professionnel que lui peut avoir. Ils vont rapidement s'associer et elle va vraiment changer le point de réflexion en ramenant sur le devant de la réflexion du côté des managers, les caissières, les consommatrices qui sont les ménagères, en essayant de remettre du lien aussi dans le circuit de la production jusqu'aux consommatrices et de remettre quelque chose d'humain. Et il y a vraiment un itinéraire voilà, à l'intérieur de l'équipe du supermarché, qui est d'ailleurs gigantesque, je ne sais pas comment ils font, et qui est assez réjouissant et qui est assez révolutionnaire et féministe.
Le 8 mars, c'est la Journée internationale des droits des femmes. C'est une célébration qui revient à chaque année dans une centaine de pays.
Tu es très loin de l'idée que se font les femmes de ce qui est sexuellement intéressant.
D'accord. Féministe, qu'est-ce qu'on entend par cela ?
Il y en a qui disent que les femmes, elles aiment les fleurs, alors que non, moi je pense qu'elles n'aiment pas les fleurs.
Voilà, et c'est un film très gourmand aussi. C'est un film où on ne mange pas forcément beaucoup, mais on est beaucoup justement dans cette... anticipation, bah de, vraiment le truc du supermarché où on construit le désir du bonheur qu'on va construire. Ça, il y a plusieurs dialogues où il parle de ça, du bonheur qu'on va construire en allant faire nos courses, en allant glaner tel et tel ingrédient, en préparant voilà, la réunion, le repas du soir, les choses comme ça. Et le film est très généreux cinématographiquement, justement, il y a un vrai souffle à la fois romanesque, un truc, bah, c'est une comédie, c'est un film très très drôle. Et que je recommande. Il est malheureusement difficile à trouver en France encore. Dans les films avec des supermarchés auxquels j'ai pu penser, par exemple les films produits en France, en Belgique, il y a un rapport, ou aux États-Unis, un rapport beaucoup autour de l'héritage des Trente Glorieuses, la figure de la ménagère. Voilà, on peut penser à l'œuvre de... Ah, j'ai oublié le nom de ce plasticien, la célèbre sculpture de cette femme qui pousse un supermarché. J'ai encore oublié le nom. Qui pousse un caddie, oui, pardon. J'ai dit qu'il pousse un supermarché, ouais. C'est incroyable. Mais pour le coup, la meuf dans le film,
elle pousse un supermarché.
Dwayne Hanson. Et oui, pour le coup, justement, j'ai trouvé qu'il y avait une lecture beaucoup plus positive, beaucoup plus humaine, beaucoup plus. Et qui aussi, ouais, vraiment fait la satire de ce qui ne va pas. Alors après, il y a toujours des angles morts, parce que ça reste de la grande distribution. Le sujet du gâchis alimentaire est absolument pas abordé, des choses comme ça. Voilà, bon, c'est un film aussi de 1996. Voilà, tout n'est pas parfait, mais je trouve que c'est un film qui est sur une tonalité assez différente par rapport à tout ce que j'ai vu sur le supermarché et que j'avais envie de recommander.
Je t'ai préparé pour ton petit déjeuner une montagne de tartines, confiture d'églantine et du chocolat crémeux. Une pomme si tu veux, il reste de la brioche, mets un morceau dans ta poche. Si tu n'as rien dans l'estomac, ça n'ira pas.
Et moi je m'en fiche, je veux les sandwichs, je veux les sandwichs au jambon, c'est ça que je trouve bon.
Je t'ai réussi pour ton repas de midi, une vraie purée de patates et des nouilles à la tomate, des côtelettes d'agneau cuites juste comme il faut, fromage blanc à la crème, tu sais celui que tu aimes. Tu n'as rien mangé ce matin, ce n'est pas bien.
Mais moi je m'en fiche, je veux des sandwichs, je veux des sandwichs au jambon, c'est ça que je trouve.
J'ai déjà tout préparé. Il y a de la tarte aux pommes, tu peux y aller, elle est bonne. J'ai racheté du chocolat, tu aimes bien celui-là. Et puis j'ai du jus d'orange, ça nourrit et puis ça change. Si tu ne manges pas assez, tu vas tomber.
Mais moi je m'en fiche, je veux des sandwichs, je veux des sandwichs au jambon, c'est ça que je trouve.
Ce soir, il faut que tu viennes voir. Il y a des œufs à la coque, comme je sais que tu te moques des légumes, alors j'ai fait un énorme riz au lait. Il faut aussi que tu manges une poire ou une orange. Des vitamines, il en faut, ce n'est pas trop.
Mais moi je m'en fiche, je veux des sandwichs, je veux des sandwichs au jambon, c'est ça que je trouve.
Mange rien que du jambon et du pain. Vraiment, tu me désespères. Je n'ai plus envie de faire course ou cuisine pour toi. Dis-moi comment tu feras quand tu auras ta famille pour nourrir garçons ou filles. Tu devras bien te forcer à mieux manger.
Oh, moi je m'en fiche. Je veux des sandwichs. Je veux des
Vous écoutez Purée, l'émission de cuisine qui donne la patate sur Radio Campus Paris 93.9.
On vient d'écouter Sandwich, O-U-I-C-H-E, au jambon d'Anne Sylvestre. On est toujours avec Camille dans l'émission dédiée à la purée de patates. Et aujourd'hui, on parle aussi de sandwich, n'est-ce pas, Capucine ?
Oui, tout à fait. Et pour te poser des questions en lien, Camille, la brune, est-ce que tu peux nous présenter la recette à base de pain qui te nourrit souvent quand tu dois te faire à manger rapidement ?
Tout à fait, j'ai développé, quand je suis chez moi, quand je peux cuisiner vite fait une omelette, j'ai développé une sorte de sandwich à l'omelette ou de burger à l'omelette, qui est plus une piste culinaire qu'une recette à proprement parler. J'aurais pas cette prétention de savoir cuisiner à ce point, quoi, d'établir des recettes. En tout cas, elle est assez simple à cuisiner, donc il faut avoir... peut-être du pain complet. J'ai testé aussi avec d'autres pains. Après, c'est vrai que quand le pain a trop de caractère, je trouve que ça marche un peu moins. Donc, pour faire l'omelette, on prend notre poêle, on fait bouillir un peu d'huile, d'huile d'olive vierge. Et dedans, on va mettre des tout petits morceaux d'ail et de piment oiseau. Et on peut aussi ajouter à ce moment-là déjà... un petit légume pour enrichir un peu. Alors, à la fois, moi, je mets des petits morceaux de tomates, un tout petit peu après avoir mis l'ail et les piments. Pourquoi pas du chou kale ou du poireau en petite quantité pour que ça reste quelque chose qui ponctue un peu l'omelette. Après, on bat l'œuf pour le rendre assez homogène. La plupart du temps, je mets deux œufs pour une taille de pain de mie classique, quoi, un peu large, mais classique. Et donc ensuite, je fais en sorte que l'œuf soit cuit de manière assez homogène. En fait, je le remue pas mal. J'arrive pas toujours à garder un bloc d'omelette. Des fois, ça fait deux blocs, c'est vraiment OK. c'est surtout fait pour être rapide. Et après, je chauffe un peu le pain, mais sans vraiment le toaster, parce que je trouve que quand il garde un côté moelleux, c'est intéressant. Souvent aussi, je peux mettre du cheddar, par exemple, si j'en ai. Que ce soit le cheddar horrible de burger ou des tranches, ça marche avec les deux. Ouais, celui vraiment qui fond, il est pas mal. Parce que justement, ce côté où il fond, après on peut mettre la sauce. Moi, j'utilise pas mal le combo entre la sauce, la mayonnaise Kewpie et le ketchup. Ça fait
D'où l'appellation burger.
Un chiasme dans la composition, j'ai envie de dire. J'ai une formation plutôt littéraire que culinaire. Exactement.
ABBA sandwich.
Pain, cheddar, sauce. Là, on peut aussi mettre un peu de poireau cru, la partie verte, ou alors des spring onions,
des
la partie verte.
Des oignons
nouveaux,
I guess.
Ouais, je crois que c'est ça. Ou alors même des pickles. Je n'ai jamais testé, mais je suis convaincue que ça marcherait.
Ouais.
Et donc après, l'omelette, et après à nouveau, oignon nouveau, sauce, fromage, le pain. Et là, c'est refermé et on peut manger ça. Bon, je mange ça, je conseille de le manger avec des couverts dans une petite assiette parce que ça devient vite saucy et ça ne tient pas beaucoup. Mais c'est vraiment un repas très, très gourmand et très pratique qui me fait du bien. Là, je me suis énormément reconnue dans ce qu'a dit Anne Sylvestre juste avant. Si tu ne manges pas du tout, tu vas tomber. Et du coup, c'est souvent mon problème. Et à ce moment-là, j'ai souvent l'énergie de faire cette recette qui est très, très rapide. Une omelette, ça va très, très vite.
Et est-ce qu'il y a un sandwich que tu manges quand tu n'es pas chez toi et que cette formule que tu nous racontes, selon moi, est peu vendue à l'extérieur,
oui,
est-ce que tu manges autre chose?
En plus de ça, ça reste un petit encas quand même, un petit encas du midi, ce burger à l'omelette, ce toast à l'omelette, donc c'est pas non plus ultra nourrissant. Donc à la fois quand je suis à l'extérieur et quand j'ai très faim, vivant justement, comme je le disais, pas loin du 13e, j'ai ma solution qui est donnée en deux mots, qui est le banh mi, puisque je suis absolument dégoûté d'ailleurs quand je suis partout ailleurs et que je cherche un sandwich, avec nos bonnes baguettes là, et que c'est impossible. D'autant que le sandwich au jambon ne m'est pas accessible étant végétarienne. Je suis absolument dégoûtée par à la fois les prix des sandwichs, le peu de goût qu'il y a. Enfin, la plupart du temps, je trouve ça très peu intéressant, très peu goûtu. Enfin, ça, t'es déprimé. Tu te sens pas revitalisé, tu sens pas que t'as mangé des légumes. Et donc, les banh mi vraiment me sauvent de manière très, très, très fréquente. Et je pense que c'est...
Qu'est-ce que c'est un banh mi ?
C'est une recette vietnamienne. En tout cas, je sais pas à quel point et où est son endroit de naissance, à vrai dire.
Moi, j'ai entendu dire, mais je sais pas si c'est vrai, que le banh mi est né de l'installation de Vietnamiens en France et donc d'une sorte de fusion entre la baguette française et une manière de penser les choses et de faire de la cuisine vietnamienne. Voilà.
Oui, c'est ça. Tout l'intérieur vraiment relève de la cuisine vietnamienne. Et moi, c'est aussi pour ça que je me suis pas encore senti de cuisiner, par exemple, mon propre banh mi, parce que je trouve qu'il faut vraiment une transmission, un moment comme ça pour réussir à cuisiner autrement que ce que je sais cuisiner. Oui, voilà, il y a ce pain, ce bon pain français quand même là, qui me manque des fois quand je suis à l'étranger. Et là, il est là, mais en même temps, l'intérieur, la garniture sur laquelle on est un peu en retard, je trouve, il peut y avoir des trucs. Moi, je ne doute pas qu'il y a des très bons faiseurs de sandwichs, des très bons sandwichiers français qui repensent des recettes, je ne sais pas, ou qui repensent le jambon beurre ou n'importe quoi. Le banh mi chai dans mon cas, le banh mi végétarien, qui existe. J'ai déjà entendu des gens dire que ça n'existait pas. Il y a par exemple des bouddhistes végétariens, il y a des gens voilà, qui sont déjà dans la culture vietnamienne et qui ont voulu avoir leur banh mi également sans manger par exemple de bœuf. Et voilà, et j'ai quelques petites adresses du 13e arrondissement que je pourrais recommander. Parce que justement, je trouve qu'il y a une grande diversité. Enfin voilà, ça veut rien dire, je trouve, un banh mi. Je trouve à chaque fois, c'est en fonction des endroits où on va, il va vraiment y avoir à la fois des ingrédients différents, un goût différent. Après, le fournisseur de pain, des fois, il change un peu quelle boulangerie est ouverte, tout ça. Et par exemple, je vais commencer avec Tieng Heng, qui est 50 avenue d'Ivry, qui est assez connu parce qu'il est directement à côté de l'entrée pour aller vers le très grand Tang Frère avenue d'Ivry, et qui fait des banh mi. Je crois que le banh mi végétarien est à 3 € ou 3 € et quelques. Et eux, leur base est vraiment autour des légumes marinés. Je crois qu'il y a du chou blanc, il y a de la carotte. Ça fait un moment que j'y suis allé. Je ne sais plus exactement tout ce qu'il y a. Parce qu'il y a très souvent la queue là-bas, qui est donc à la fois un défaut, à la fois un signe de qualité. Et je recommande beaucoup d'aller goûter ce banh mi, qui est beaucoup centré, du coup, je dirais, autour des légumes marinés, en tout cas dans le cadre du banh mi végétarien. Là où, en face, par exemple, 51 avenue d'Ivry, il y a le traiteur Hwanam qui fait énormément de choses. C'est un traiteur, mais notamment des banh mi. Et là, les banh mi végétariens sont vraiment centrés autour du tofu. On a vraiment le goût du tofu qui est assez central, je trouve, dans leur plat. Et donc, voilà, justement, en fonction des envies, moi, je vais aller comme je suis... Voilà, du genre à marcher, à traverser cet arrondissement très souvent, parce qu'il y a des trottoirs larges et des arbres, et que tout ça, c'est très très plaisant à traverser. Je vais aller d'une adresse à une autre. Ma préférée dans ces budgets-là, parce que là on est sur des banh mi de 3 €, c'est Song Heng, qui est 56 avenue de Choisy. Qui propose un banh mi, justement, je dirais, plus à l'équilibre entre les deux. À la fois, il y a les légumes marinés, il y a le tofu, notamment, quand je parle de Hwanam Traiteur, eux, ils font plutôt le tofu frit. Et là, chez Song Heng, il y a du tofu... est-ce qu'il est cru ou est-ce qu'il a été un peu plus préparé? En tout cas, un autre style de cuisson. Je crois qu'il est cru. Hein. Voilà, c'est un banh mi assez complet. On peut demander aussi d'avoir une version plus augmentée, avec plus de garniture, ou d'avoir un bao à côté pour 1,50 €. Voilà, j'apprécie beaucoup celui-là. Et après, mes préférés, qui sont un peu plus un budget au-dessus, il y a banh mi 88 avenue d'Ivry, qui est, je trouve, très gourmand. c'est une petite épicerie aussi. On peut acheter beaucoup de produits. Une fois, j'avais acheté du café instantané, café vietnamien. Et du coup, l'Urban Me, je crois qu'il y a de la mayonnaise notamment. Et il y a une garniture végétarienne qui est très complète. J'arrive pas bien à me souvenir. En fait, je trouve que c'est vraiment une formule magique. J'arrive jamais parfaitement à identifier tout ce qu'ils ont dedans. Et mon préféré de tous, qui est sans doute assez connu, c'est Banh Mi 13, qui a désormais deux adresses. L'un sur la dalle d'Olympiade, vers le 66-68 avenue d'Ivry, et l'autre qui est le plus récent, 73 avenue de Choisy. Et qui sont, pour 5,50€, le banh mi le plus complet et le plus goûtu que je connaisse. Il y a un petit goût d'ail un peu beurré, il y a des sortes de vermicelles, il y a du tofu, je crois, aussi. Et il y a des concombres, beaucoup de carottes, la coriandre, du piment. On peut évidemment tous les prendre sans piment, mais quand même, je recommande le piment aussi. Et celui-là, pour le coup, c'est celui qui me cale. Voilà, quand j'ai besoin de me caler, des fois, je vais à Song Heng, je prends le bao et le banh mi, mais mon préféré, c'est quand même d'aller chez Banh Mi 13 et d'avoir ce bon banh mi qui me cale pour un long moment. Et là, je suis sûr de ne pas tomber après ça, quoi, de ne pas m'évanouir. Et c'est ce que je recherche dans un sandwich.
Ben merci pour cette longue liste riche d'adresses qu'on va essayer de mettre sur notre page Instagram.
Pour les recommander.
Voilà, purée.fm pour nos auditeurices qui ne le sauraient pas encore.
Purée, c'est Capucine!
Chinar, si on est en Italie.
Tellement fin, je pourrais manger François Pérou.
Voilà, je fais appel à vos compétences culinaires, donc il faut en avoir.
Je pourrais écrire ça dans un texte.
Voilà, alors moi je suis absolument ravie que Camille ait eu tant de choses à dire sur les banh mi, parce que ça fait très longtemps que j'ai envie de parler de sandwich, donc je vais en parler un petit peu, et puis je pense que je vais aussi réserver des choses, plein de choses que j'avais à vous dire sur les sandwichs, pour un autre épisode dans lequel je me permettrai à nouveau. Mais je voudrais commencer par vous faire écouter une petite réflexion sur l'enjeu majoritaire sans doute du sandwich, qui est l'enjeu de la bouchée parfaite.
À chaque fois que je mange mon sandwich préféré, le mythe est confronté à la vraie vie. Et là, c'est le drame. Pourtant, je ne demande pas grand-chose. Juste une bouchée parfaite, avec un morceau de tout. Pensez-vous, la première bouchée, c'est le bout de la baguette. Je n'ai que du pain. À la deuxième bouchée, la mayo sort par les côtés et je me blesse au palais avec la croûte, certes craquante, mais un peu trop tranchante. Je grignote plus prudemment d'un côté et paf, je perds un morceau de tomate de l'autre. Ah, enfin un morceau de poulet. Mais rien à faire. Je n'arrive jamais à savourer le pain, la tomate, l'œuf et le poulet en même temps. La bouchée parfaite n'existe tout simplement pas. À mi-chemin, j'ai de la mayo sur le chemisier, je me suis coupé les coins des lèvres et tous les beaux morceaux d'œuf dur se retrouvent au fond du sachet. À chaque fois la même galère. Alors il faut abandonner, ma pauvre dame, me dites-vous. Prenez un jambon beurre cornichon la prochaine fois, option moins compliquée mais tout aussi bonne. Mais non, moi on m'a appris à ne jamais abandonner mes rêves. J'y crois à la fabuleuse promesse du poulet mayonnaise crudité. Et je continuerai à m'acheter ce fichu sandwich que j'adore, j'affinerai ma technique coûte que coûte et un jour, peut-être, un beau jour, je l'aurai, ma bouchée parfaite.
Voilà, alors comme dit cette dame dans le format carambolage d'Arte sur YouTube dédié au sandwich, la bouchée parfaite de sandwich n'existe peut-être pas. Ce dans quoi je me reconnais le mieux dans ce qu'elle raconte, c'est l'histoire de la mayo sur le chemisier. Il est pour moi tout bonnement impossible de déguster un sandwich sans tacher mes vêtements. Ceci dit, il est également impossible pour moi de boire un café sans tacher mes vêtements. Donc peu importe, il suffit d'avoir des vêtements de rechange. En tout cas, moi je voulais nuancer un peu le coup de gueule sur les sandwichs en baguette en parlant de deux adresses dans lesquelles j'ai mangé des délices de sandwich en baguette qui ne sont pas des banh mi, ce qui n'est d'ailleurs pas du tout un désir de ma part de faire de la concurrence aux banh mi, mais simplement de diversifier vos options à vous, auditeurice. Là où je te rejoins quand même, évidemment, Camille, c'est sur le fait que beaucoup de sandwichs de boulangerie sont très chers, pas très bons et pas calants du tout. Et c'est vrai qu'ils sont très majoritairement à base de viande et qu'en termes d'options végétariennes, il n'y a en général pas rien ou des choses vraiment pas bonnes. Ce dont je voulais vous parler, moi, c'est d'une boutique que j'aime énormément qui s'appelle Olga et qui est juste à côté de la gare de Lyon et qui est en fait une fromagerie qui fait des sandwichs. La majorité sont végé. En général, il y a une option avec de la charcuterie, mais sinon, c'est des sandwichs dont l'aliment principal est le fromage, mais qui est toujours associé à au minimum un légume, qui est souvent un peu travaillé. Donc, par exemple, j'en ai mangé avec de la tomme de brebis et des pickles de radis. J'en ai mangé avec du fromage de chèvre corse et des lamelles de pommes et de la roquette. Enfin, voilà. Ils ont un travail. En général, ils proposent... Là, c'est très cher. Hein, c'est 10 euros le sandwich. Et ils proposent que 4 options. Mais j'y ai mangé plusieurs fois, presque à chaque fois que je dois prendre un train à la gare de Lyon, quand je suis sur les horaires d'ouverture, j'y vais. Et surtout que je prends beaucoup, beaucoup le train dans le cadre de mon travail, entre parenthèses, thèse. je suis amenée à assez régulièrement prendre le train et j'ai faim, comme sans doute beaucoup de gens. Et donc, je mange beaucoup dans le train et je suis souvent à la recherche de bonnes adresses à côté des gares pour pouvoir amener des choses bonnes avec moi dans le train parce que ça amène souvent à manger des
sandwichs.
Ouais, les sandwichs chez SNCF, c'est pas possible, mais même les trucs, les chips du relais à 18 euros. Enfin, bon, bref. Voilà. Donc, Olga, c'est certes cher, mais c'est vraiment, vraiment très, 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 très bon. Et du coup, on se sent. C'est peut-être sans doute pas possible pour tout le monde d'acheter ça tout le temps. Mais si par d'aventure, vous pouvez vous en acheter une fois avant un trajet dans le train depuis Gare de Lyon, on se sent comme un roi ou une reine avec une reine. On est le 8 mars. On se sent comme une reine ou une princesse. Et donc, le sandwich est enveloppé dans un papier un peu magnifique. Enfin, c'est très fancy. Et donc, ils servent aussi, si on le souhaite, en dessert un Fontainebleau. Parce que donc, du coup, c'est un fromager qui a un savoir-faire de crèmerie. Oh, incroyable. Le Fontainebleau, du coup, qui est une sorte de travail entre le yaourt et la crème. Je sais pas trop comment le raconter mieux que ça, entre le yaourt et la chantilly même. Ouais. Voilà, et ils servent un Fontainebleau.
Fromage blanc chantilly, non ?
Ah oui, c'est ça, c'est un mélange fromage blanc chantilly fouetté, exactement.
Yam.
Et donc ils servent des Fontainebleau dans des petits pots de crème qu'ils recyclent pour mettre. Bon, voilà, c'est un peu design. Et ils servent leur Fontainebleau avec des confitures et des compotes qu'ils ont fait elles-mêmes. Voilà, c'est un délice. Donc ça, c'était mon adresse parisienne, Olga. Et j'ai une adresse marseillaise qui s'appelle Pimpin, c'est une chaîne de boulangerie à Marseille. Et parmi les sandwichs qu'ils proposent, ils en proposent un qui est végétarien, qui est à base d'artichauts, de roquettes, de ricotta, d'huile d'olive et d'olive. Et qui est donc bien garni. Moi, mon problème souvent avec les sandwichs, c'est que je trouve ça un peu sec. Et là, on est vraiment sur un sandwich très... Le mot moist en anglais décrit bien cette réalité, peut-être mouillé en français. Mais voilà, un peu gras, imbibé. Un peu bien imbibé, exactement. Entre la ricotta, l'artichaut, l'huile d'olive, etc. Donc voilà, c'est mes recommandations si vous aimez le croquant de la baguette et que vous avez envie de changer du banh mi. Je vous propose également ces adresses-là. Et en plus, ce qui est bien, c'est qu'on peut acheter son sandwich à Olga à Paris, on prend le train, on arrive à Marseille, on va à Pimpin, on se rachète un sandwich.
Oh, wow.
Voilà.
Dans le genre sandwich végétarien, j'ajoute une recommandation qui est la boulangerie de Christophe Michalak. Il y a plusieurs adresses, mais notamment une pâtisserie rue du Bac. Et ils font un sandwich focaccia, olive, origan, crème d'ail et fines herbes, oignons rouges crus et en pickles, lamelles de cornichons aigre doux et sucrine, qui est délicieux, pour la modique somme de 7,50 €.
Ouais, ça fait saliver ça.
C'est vrai, très, très bon. Ça donne un peu envie. Et dans une idée moins adresse, mais plutôt recette, aussi pour recommander des manières de trouver des recettes végétariennes, même si j'ai bien compris, Camille, que tu n'utilisais pas les livres de recettes, mais qui sait, peut-être un jour. Je vous recommande le livre de cuisine « A Modern Way to Eat », en anglais, mais je pense qu'il doit y avoir une version en français, qui est un livre de cuisine écrit par une femme.
Le 8 mars, c'est la journée internationale des droits des femmes. C'est une célébration qui revient à chaque année dans une centaine de pays.
Tu es très loin de l'idée que se font les femmes de ce qui est sexuellement intéressant.
D'accord.
Féministe, qu'est-ce qu'on entend par cela ?
Il y en a qui disent que les femmes, elles aiment les fleurs, alors que non, moi je pense qu'elles n'aiment pas les fleurs.
Moi, je pense que Anna Jones, la cuisinière qui a écrit ce livre, aime les fleurs. C'est une cuisinière british qui fait plusieurs livres de cuisine végétarienne. Je sais pas pourquoi j'ai dit british, britannique, c'est parce que j'ai écrit british, pardon. Quelque chose que j'aime beaucoup, je crois que j'ai peut-être déjà parlé de ce livre de cuisine dans cette émission, mais je sais plus. C'est un livre de cuisine que j'ai depuis bientôt 10 ans, offert par quelqu'un qui ne fait plus partie de ma vie, mais ceci dit, ça me touche quand même d'avoir encore ce livre comme presque une bible. Et qui est tout déchiré, j'ai mis du scotch partout et tout. Et en plus, qui date de l'époque où j'étais végétarienne moi-même, donc c'est quand même, je sais pas, c'est beau. Il y a plein de doubles pages sur plein d'éléments peu de la cuisine, genre les soupes, les pâtes, les, enfin voilà, plein de composants. C'est ça. Et à chaque fois, elle fait plein de propositions sur comment décliner. Par exemple, décliner la soupe, décliner qu'est-ce qu'il faut, une salade, par exemple. Qu'est-ce qu'il faut comme base, plein d'idées. Qu'est-ce qu'il faut comme ajout de texture. Enfin, voilà. Et donc, j'aime beaucoup sa manière de... Parce que c'est des recettes... Enfin, il y a aussi des recettes traditionnelles, mais il y a aussi ces doubles pages que moi, j'utilise beaucoup plus que les recettes, qui sont plutôt des formules, si on peut reprendre cette idée-là, que des recettes strictement. Et donc, elle a une double page sur les sandwichs dans lesquels elle propose des recettes, plutôt quand même concrètement. Et donc, je voulais vous en proposer trois. Une qui s'appelle Asparagus, avec des asperges blanchies, du parmesan, de l'avocat, des graines de citrouille, de la roquette et du jus de citron. En plus, je trouve facilement véganisable, parce qu'il suffit d'enlever le parmesan et que je pense que ça ne change pas grand-chose au sandwich. Ensuite, Beetroot, avec des betteraves cuites, du fromage de chèvre, des graines de citrouille, de la roquette et du zeste de citron. Et ensuite, avocado, un peu plus classique, avec de l'avocat écrasé, de la feta, de la coriandre, du citron vert, des tomates cerises, de la laitue et du piment, notamment chipotlé. Voilà, à chaque fois, je trouve des idées un peu de mélange et de texture et de saveur qui font quand même le jus de la vie et du sandwich.
Vous écoutez Purée, l'émission de cuisine qui donne la patate, sur Radio Campus Paris 93.9.
Et on vient d'écouter Lost in the Supermarket de The Clash.
Et il faut savoir que Margaret Thatcher était la fille d'un épicier, ce qui, à mon sens, donne quand même une autre dimension à ce titre.
Ah ouais.
Ouais.
Incroyable info.
Purée, c'est Camille.
J'adore, et je dis bien j'adore, les livres de cuisine. Le sens de recettes de cuisine comme préparation culinaire, en fait, il n'arrive que 200 ans plus tard.
Orange sanguine ou consanguine? Est-ce que vous savez différencier clémentine et mandarine?
Alors, je me suis rappelée, en préparant cette émission, de l'existence du panini. Je ne sais pas si vous avez des anecdotes avec les panini. Moi, perso, il y avait une petite boutique qui vendait des panini à côté de mon lycée. Et donc, on y allait, même de mon collège, et on y allait souvent manger un demi-panini au Nutella. Voilà. Il y avait plein de trucs. Bref, et je me suis rappelée, en fait, des sandwichs chauds.
Oui, moi j'ai une anecdote sur les panini. Vas-y. Donc je voudrais la dire et puis après je te laisse continuer. Quand j'habitais à la Cité U, il y avait une petite échoppe de panini. Enfin, je sais pas, c'est un truc qu'on aurait dit un kiosque à journaux, mais en fait ils vendaient des panini. C'était super bon, c'était pas cher du tout. Les gens étaient gentils et c'était tellement nourrissant. Et c'était ouvert tard le soir et tôt le matin. Enfin, c'était vraiment un délire et ça m'a nourri pendant les 6 mois que j'ai passé à la Cité U. Et maintenant, ça n'existe plus.
Oh. Mais non plus, ça a fermé. À côté de... Ouais. Mais c'est vrai que c'était vraiment
qui
un lieu de communauté.
Qui en veut au panini?
Je pense qu'on peut parler
c'est sans
de
doute Rachida Dati.
Panini Apocalypse ou un truc
panini
comme ça.
Panini Apocalypse, tout
entre
à fait.
Les prix qui augmentent et la disparition des petits panini, c'est voilà. Très grave ce qui se passe.
Donc, tout ça pour dire que je vous ai préparé 3 questions de culture générale. Donc, je sais que peut-être certaines personnes ici présentes ont déjà les réponses, mais je vais les poser quand même. Première question. Un peu plus généraliste, à qui est attribuée l'invention du sandwich? Vous avez 3 réponses possibles. Petit A, une cuisinière de Louis XV qui a assemblé 2 tartines. Petit B, Sir Thomas Gainsborough, un industriel anglais qui revenait d'un tour du monde. Petit C, le 4e comte de sandwich.
Sir Thomas Gainsborough.
Et toi?
Moi, je crois qu'il s'appelait Sandwich, donc le comte de Sandwich.
Et c'est absolument le comte de Sandwich qui, selon la légende, était un grand joueur de cartes. Et un jour, un serveur lui a apporté un sandwich donc avec de la viande froide et du fromage dans 2 tranches de pain. Et il a kiffé parce qu'il pouvait manger ça sans se lever de sa table de cartes et aussi que ça lui gardait les mains propres.
Mais donc, en fait, c'est le serveur qui l'a inventé et c'est le comte sandwich
absolument.
Qui se l'a approprié.
Okay. Absolument. Mais parce qu'en fait, il mangeait ça tout le temps. Enfin bref, c'est la légende. Deuxième question. Qu'est-ce qu'un panino? Tic-tac. Bah, petit A.
Pardon.
Bah non, mais si tu veux.
C'est encore plus dur. Hein.
Pardon. Donne des choix.
Petit A, un petit pain à l'huile. Petit B, un sandwich. Petit C, l'abréviation de panino ripieno.
Allez-y. J'allais dire un sandwich.
Moi, j'ai l'impression que c'est le singulier de panini, mais je ne sais
moi
pas pourquoi.
Moi aussi, j'aurais dit ça. Bah, parce que strictement en italien, c'est le singulier de panini, mais peut-être que c'est panino ripieno, mais je ne sais pas ce que ça veut dire.
J'ai envie de dire ça aussi.
Ça veut dire petit pain farci.
Ah, miam.
Panino comme petit pain et ripieno comme farci.
Comme rempli.
Merci, Camille. Voilà, exactement. Donc en fait, c'était toutes les réponses. Hein.
Oui.
C'était une question
c'était
piège,
ABC.
Un peu. C'était ABC. Dernière question. Qui a inventé le grill à sandwich ou grill à panini plus tard? Vous avez 3 possibilités. Petit A, Léonard de Vinci. Petit B, Thomas Edison. Petit C, Henri Sédar, le cuisinier des Windsor, qui était français.
Je pense que c'est Henri Sédar, le cuisinier des Windsor, qui était
et
français.
Toi,
mais je pense la même chose.
Eh ben non, c'est Thomas Edison.
Oh, burn.
Voilà, c'était le fun fact. Ouais. Et bien voilà, notre épisode touche à sa fin. Merci à Camille d'avoir accepté notre invitation.
Merci
à notre réalisatrice de génie et productrice de cette émission, Carla. Et merci à toutes, sans tous, pour votre écoute. On se retrouve sans faute le mois prochain pour encore plus de gourmandises sur Radio Campus Paris 93.9. À ciao, bonsoir.
Et pour un disclaimer relaxant de fin d'émission, en l'honneur de la journée internationale de lutte pour les droits des femmes, nous tenons à préciser, pour celles qui avaient la ref de Camille précédente, que nous nous désolidarisons totalement de Patrick Poivre et Celle d'Arvor, tout comme de tous les hommes à l'origine de violences sexistes et sexuelles qui sont au quotidien une épine dans toutes les chaussures des femmes.